Coucou, c'est Victor. Cet épisode a été produit grâce à vos dons. Comme un poisson dans l'eau est un podcast indépendant et sans publicité. Alors si vous voulez qu'il continue à exister, et que vous avez les moyens bien sûr, s'il vous plaît, abonnez-vous en suivant le lien dans la description. Un grand merci à toutes les personnes qui le soutiennent déjà et lui permettent de rester accessible et gratuit pour tous.
Moi, je suis persuadée que plus tôt on va prendre un sujet, plus tôt on va le gagner, en fait. Je pense qu'il faut... vraiment, j'adresse un message à notre mouvement. Il ne faut surtout pas avoir peur de s'emparer d'un sujet. Et je tiens à dire que nous, on ne fait pas de hiérarchie dans les avancées. C'est-à-dire que chaque victoire compte, que ce soit des victoires locales, des victoires nationales. Moi, je crois vraiment à l'histoire de faire boule de neige, quoi. C'est-à-dire qu'une victoire entraîne une autre victoire, etc. Il faut que nous, on organise un contre-discours. Et il doit être partout, ce contre-discours, dans la bouche des élus, dans les médias, etc. On ne peut pas faire l'économie de faire du bruit.
Épisode 28. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch. Et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. En ouvrant cette troisième saison de Comme un poisson dans l'eau, je vous avais annoncé vouloir investir le sujet de la stratégie, c'est-à-dire s'interroger sur comment on fait pour obtenir des avancées pour les autres animaux, comment on s'organise au mieux dans le mouvement antispéciste et comment on lutte pour grignoter des victoires. On a un peu parlé stratégie avec Sandra Guimaraes dans l'entretien 25, mais là, il s'agit d'un épisode entier consacré au sujet, autour de la stratégie de l'association PAZ, qui fait un travail que je trouve particulièrement intéressant en termes de stratégie. J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce qu'en dit sa cofondatrice que j'avais déjà reçue dans le podcast, Amandine Sanvicens. Bonjour Amandine Sanvicens.
Bonjour.
Alors ça faisait longtemps que je voulais vous recevoir pour parler de la stratégie de l'association que vous avez cofondée, Paris Animaux Zoopolis, PAZ. Car c'est une association qui fait énormément et qui obtient des avancées pour les animaux avec relativement peu de moyens. Donc on peut dire que c'est une association efficace. Et je me suis dit qu'il était vraiment temps de faire cet épisode quand j'ai eu vent du nombre de retombées médiatiques, presse, que vous avez obtenues en 2023. Est-ce que vous pouvez me le dire vous-même ?
Donc en 2023, 768 articles, journaux télé, radio, ont été consacrés à nos campagnes.
C'est gigantesque, enfin, c'est une couverture presse vraiment impressionnante, bravo, avec d'autant plus une équipe assez resserrée. Alors, je crois que c'est, jusqu'à récemment, c'était 2 salariés, c'est,
oui,
ça,
c'est ça.
Et maintenant, une équipe un tout petit peu plus grande.
Oui, maintenant on est 4 actuellement. Okay.
Donc ça reste une équipe relativement restreinte,
oui,
par rapport...
On est une petite association.
Ouais, et qui fait beaucoup. Et évidemment, ça ne se mesure pas uniquement au nombre de retombées presse, mais ça joue en fait aussi dans l'influence et dans les avancées qui peuvent être obtenues. On va en parler. On va parler notamment de votre stratégie orientée vis-à-vis des médias. Mais avant ça, peut-être qu'on peut revenir brièvement sur la raison d'être de PAZ. Alors déjà, pourquoi ce nom initialement Paris Animaux Zoopolis ? Enfin, animaux, je vois bien, mais pourquoi Paris et pourquoi Zoopolis ?
Oui, alors l'association, en fait, historiquement, était vraiment concentrée sur la ville de Paris, où on souhaitait donc, et on le souhaite toujours, que Paris soit exemplaire en matière de conditions animales, parce qu'on est dans un pays, la France, qui est très centralisé, et qu'en fait, quand ça se passe à Paris, il y a un impact partout, souvent ça fait boule de neige. Donc il y a aussi une volonté stratégique de se dire que si on a des avancées à l'échelon municipal de Paris, ça va impacter d'autres communes, mais aussi la loi. Et c'est le pari notamment qu'on a fait sur la question des cirques. Zoopolis, parce que évidemment c'est un ouvrage donc écrit par Sue Nelson et Will Kliminka, qui est pour nous un ouvrage fondateur sur un projet de société post-abattoir, pacifique, avec les animaux, qui parle aussi de justice, et qui donc dessine les traits d'une société où on sortirait de l'exploitation animale. Et voilà, et comment on pourrait cohabiter ensemble avec les animaux non humains. Donc c'est vraiment un livre très inspirant pour nous. Et puis aussi qui parle des animaux liminaires, qui est donc cette catégorie qui est très invisibilisée et sur laquelle on travaille énormément.
Oui, moi je trouve ça super intéressant dans le concept même de cette association, qu'en fait ce soit une mise en pratique d'avancées qui ont été idéologiques, en fait d'innovations théoriques de la théorie antispéciste, de la philosophie, que vous mettez en œuvre pour décrocher des avancées. penser en fait et changer le monde concrètement, aller vers un monde meilleur pour les animaux.
C'est ça. En fait, ce qu'on essaye de dire, c'est que nous, on essaye de construire une société. Donc oui, évidemment, on veut des interdictions. Et on en veut énormément parce qu'il y a des pratiques qui sont cruelles, abominables et injustes. Mais on essaye aussi de faire des propositions. Et ça, c'est vraiment inspiré de Zoopolis. Donc, par exemple, des sanctuarisations pour protéger les habitats des animaux, etc. Donc, on essaye voilà, d'aller plus loin que des interdictions, mais aussi des propositions de société pour construire un projet de société.
Et d'ailleurs, en plus, c'est malin d'avoir mis finalement Zoopolis dans le nom parce que ça fait connaître un concept qui parlait à personne initialement. Alors que maintenant, dès qu'on parle de votre association, j'imagine qu'on vous a très souvent posé la question, mais qu'est-ce que c'est Zoopolis ? En fait, ça vous donne l'occasion de parler de ce concept et du coup de faire exister cette idée-là, exister la bataille culturelle d'une idée qui était coincée à l'université, entre guillemets, à la base.
C'est vrai. Et puis, nous, on a beaucoup d'interlocuteurs qui sont des élus. Et c'est vrai que ça pousse à ne serait-ce que lire le résumé de l'ouvrage, etc. Donc, je pense qu'en effet, c'est très fort pour nous de l'avoir dans le nom de l'association.
Et alors, j'ai lancé le mot « bataille culturelle ». Je crois que vous êtes peut-être la seule asso que je connaisse, mais je ne suis pas allé regarder systématiquement. Mais en tout cas, vous avez un onglet dans votre site, le site de Paz, « bataille culturelle ». C'est vraiment quelque chose qui est au cœur de vos combats dans l'animalisme. Qu'est-ce que c'est, en fait, la bataille culturelle ?
Alors, moi, la bataille culturelle, je vais l'illustrer par un exemple qui est très simple. Aujourd'hui, en France, quand on demande à des gens dans la rue « Est-ce qu'il est normal de mettre un tigre dans une cage sous un chapiteau pour un cirque ?» La majorité des gens disent « Non, c'est un scandale. » Voilà, ça veut dire qu'on a gagné la bataille culturelle. Ça veut dire que pour la majorité de la population, c'est inacceptable et c'est profondément injuste. Et donc, la bataille culturelle, c'est arriver finalement à passer ce tournant où on arrive d'une idée qui est minoritaire dans la société à une idée qui est majoritaire. Et donc, la bataille culturelle, c'est évidemment pour nous l'objectif final, ce serait de dire qu'on prend au sérieux les intérêts des animaux, mais c'est aussi pratique par pratique, arriver à passer un certain stade, je dirais, pour que ça paraisse être normal, en fait. Se dire, c'est normal qu'il n'y ait pas d'animaux sauvages dans les cirques, c'est normal, voilà. Et c'est ça qu'on se bat là-dessus. Nous, on estime que toutes les campagnes que nous menons, ils s'inscrivent dans la bataille culturelle, dans la bataille des idées, dans qu'est-ce qu'il est juste ou injuste de faire subir aux animaux.
Oui, par exemple, au moment où on enregistre, la veille, hier, en fait, du coup, il y a eu une victoire qui est en fait symbolique culturellement, mais qui participe à cette bataille-là. Il y a eu enfin un monument commémoratif pour les animaux morts pendant la guerre qui a été inauguré à Paris. Hier, et c'est le fruit encore d'une longue bataille que vous avez menée.
Oui, et c'est une bataille qui a duré 5 ans, en fait. Et je voudrais un peu en parler, parce que c'est vrai que j'entends des fois des militantes et des militants qui peuvent dire que finalement, c'est comme monument, que les animaux sont morts, et qu'aujourd'hui, il y en a qui sont vivants, qui souffrent, et je pense qu'on est bien placé pour le savoir. Mais cette bataille, elle a été vraiment très importante. C'est-à-dire que nous, on a été confrontés à des élus de gauche comme de droite qui nous ont dit « les monuments, c'est réservé aux humains, il n'en faut pas pour les animaux ». Et finalement, là, on touche, si je puis dire, le cœur de l'idéologie spéciste. Et donc, c'est pour ça que ça a été vraiment important. Et puis évidemment, moi, dans mes discours, dans la façon dont on le présente, on explique que ce monument, c'est pas réservé à la Première Guerre mondiale, on n'en parle plus. Non, c'est faire le pont avec le présent. C'est se dire, il y a des pigeons qui sont morts à travers des gaz toxiques dans les tranchées durant la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'aujourd'hui, on va continuer à les gazer et c'est légal en France? Voilà. Donc, c'est faire le pont avec le présent. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, que j'ai souligné lors de la cérémonie hier. J'ai parlé des abattoirs avec les chevaux, etc. Voilà, je voudrais vraiment dire aussi que ce combat, il est important parce que il est au-delà des animaux morts durant un conflit, en fait, il est aussi faire prendre conscience aux élus que la mémoire, elle ne se limite pas aux humains. Et je pense que, pour moi, c'est profondément spéciste de se dire on efface les animaux de l'histoire. C'est une violence symbolique qui est extrêmement violente et grave. Donc évidemment, on le doit à l'historien Éric Baraté qui a fait un travail énorme, mais à nous, militants et militants, de le concrétiser et de faire vivre cette mémoire. Parce que si on oublie ce qu'on fait subir aux animaux, voilà, c'est comme le devoir de mémoire pour les humains. On est recondamné à le revivre d'une manière différente, peut-être, mais de le revivre. Donc c'est pour ça, en cela, que c'est important. Et puis c'était une cérémonie qui était extrêmement solennelle avec les codes qu'on réserve aux humains, avec des prises de parole d'élus de différents rangs, avec des journalistes, etc. Et c'est très fort, je trouve, symboliquement, c'est très très fort.
Ouais, ça casse des barrières spécistes, en fait.
Oui,
petit à petit, on casse les barrières.
Tout à fait. Et en France, parce que dans le milieu anglo-saxon, c'est des monuments qu'on a vus il y a 20-30 ans, mais en France, c'est quand même
Mais ça, c'est intéressant, justement, dans votre stratégie pour obtenir cette victoire, vous avez notamment un peu mis en concurrence en disant, en montrant l'exemple de, il y a d'autres villes qui le font, il y a Canberra en Australie, il y a Londres, il y a Bruxelles, et ça c'est toujours quelque chose que vous utilisez, on va y revenir plus tard sur le côté, justement partir des villes, du municipal, quelles sont ces avancées-là, et du coup pour obtenir des victoires dans d'autres villes, et c'est pour ça qu'à l'inverse, les victoires qu'on peut obtenir à Paris pourrait en fait avoir des retombées même internationales, parce que Paris c'est une ville très importante, symboliquement très connue, donc une fois que d'autres associations un peu partout pourront dire à Paris on a eu cette victoire-là, il y a eu cette avancée, ça peut rayonner en fait.
Ah mais complètement, complètement. Et on reçoit des messages, que ce soit d'autres associations en France, que ce soit aussi à l'étranger, hein, qui nous disent comment vous avez fait pour arriver à ça, on aimerait essayer de faire pareil. Bon, bah, c'est vrai, c'est évidemment une très belle reconnaissance, et ça nous touche beaucoup hein, que des militantes ailleurs veulent faire la même chose.
Bataille culturelle, c'est aussi arriver à imposer nos mots, nos concepts, redéfinir la façon dont les choses sont distinguées habituellement, et notamment vous faites un travail énorme, on en avait parlé un peu brièvement dans un autre épisode auquel je renvoie les auditeuristes, le crossover avec Penser les luttes, sur la question des animaux liminaires, c'est aussi quelque chose que vous reprenez de la théorie de l'ouvrage Zoopolis, et je vous ai déjà entendu faire le parallèle avec le mot féminicide par exemple, qui n'était pas du tout utilisé, qui n'était pas dans les dictionnaires, et dont l'usage a en fait été imposé par le mouvement féministe.
C'est ça. C'est vrai que j'allais oublier de le dire, mais c'est vrai que la bataille culturelle, elle est aussi dans la sémantique et qu'on travaille beaucoup là-dessus. On essaye de l'expliquer dans nos communiqués de presse. On explique qu'on n'est pas une association écologique, mais une association animaliste. On explique que nous, on ne parle pas de biodiversité, mais de conditions animales. On l'explique aussi aux élus. Et donc, en effet, l'exemple du terme féminicide est vraiment très fort, hein, parce qu'en fait, voilà, il n'était pas utilisé. C'était au début vraiment très restreint à un milieu très, très militant. Maintenant, il est dans les titres des journaux, il est prononcé par des élus, je pense qu'il est dans le dictionnaire. Voilà, donc, et la notion d'animaux liminaires, en effet, alors aujourd'hui, on n'a pas réussi encore que ce soit dans le dictionnaire, mais on ne se décourage pas. Chaque année, on écrit à l'ensemble des dictionnaires. Mais en tous les cas, moi, je dis qu'on a gagné l'essentiel, c'est-à-dire que les journaux en parlent et on a une revue de presse uniquement consacrée au terme d'animaux liminaires, y compris les journaux qui sont contre nos idées, mais peu importe. En tout cas, le terme est utilisé. Et puis les assemblées, j'ai envie de dire que c'est quand même l'essentiel. Quand on a, par exemple, la ville de Lille qui le met dans son dépliant, son site internet, la mairie de Paris, etc. Et puis des élus de droite, de gauche, enfin tout le monde, en fait, commence à utiliser le terme. Bon, des fois, pas vraiment correctement, mais peu importe. Enfin, en tout cas, le terme, est pour moi, si on l'utilise, on rend visible, on met la lumière sur ce type d'animaux-là. Donc, c'est vraiment très, très important.
Et ça charrie une partie des idées qui l'accompagnent, en fait.
Bien sûr.
Que ça va avec les idées antispécistes d'éthique animale qu'ont pensé les philosophes qui ont présenté ce terme. Bah, en fait, ça charrie ça avec lui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que même quand le traitement qui accompagne cet usage du terme est négatif, je sais que vous vous en félicitez quand même.
Oui,
par exemple, Paul Sugy, journaliste au Figaro, qui est un fort opposant à l'antispécisme, a utilisé le mot animal liminaire. Et vous avez dit, c'est déjà une victoire, en fait, même s'il l'utilise pour dénigrer le
concept. Ah non, mais clairement. Parce que, en fait, le fait de... Avant, on n'en parlait pas du tout. C'était le silence absolu, en fait. C'est comme la question, par exemple, des féminicides. Donc, du coup, là, le fait d'en parler, pour moi, c'est énorme. Parce que, du coup, on va forcément parler de la façon dont sont traités ces animaux, à quel point ils sont méprisés, à quel point ils sont tués. Clairement, c'est vraiment très important. Et il faut qu'on continue sur cette voie.
Et alors, vous l'avez dit, pour vous, c'est pas du tout quelque chose de déconnecté de vos batailles politiques, en fait. Vous avez une façon hyper originale et intéressante à Paz d'articuler en permanence bataille politique et bataille culturelle, au sens où, en fait, la loi, si on obtient des avancées juridiques, influence les idées, parce que ça entérine un certain nombre d'idées, d'interdictions, ça met des tabous sur des pratiques, les pratiques les plus cruelles. Et inversement, la bataille culturelle sert à obtenir des batailles politiques. Ça va dans les deux sens, en fait.
Ah, mais complètement. Enfin, en fait, moi, ce que je dirais, c'est que nous, on a une stratégie qui est... Enfin, on essaye d'avoir une stratégie qui est globale à 360 degrés. Ça veut dire qu'à la fois, on essaye de mener la bataille des idées, de bousculer, hein, donc notamment avec des articles de presse. On essaye d'affronter aussi la polémique et le débat. Et des fois, ça peut être très tendu. Et voilà, on a pu l'avoir sur les balades à poney, etc. Mais en même temps, on est au cœur des idées. Et je pense que c'est là où c'est important, au cœur du débat. À la fois, évidemment, on va voir les élus. On est exigeante. Pareil, on n'a pas peur du conflit. Et évidemment que si on arrive à avoir des avancées, c'est parce qu'il y a énormément d'articles de presse et que les journalistes, alors que des fois les élus ne veulent pas nous répondre, les élus répondent aux journalistes, en fait. Donc les journalistes, finalement, entre guillemets, on s'en sert, si je puis dire, pour obtenir des réponses. Et c'est en cela qu'on arrive à avoir des avancées. C'est-à-dire que moi, je dis qu'on ne peut pas avoir des avancées dans l'ombre, en fait. Pour moi, ce n'est pas en ayant des réunions en cachette avec des élus qu'on peut avoir des avancées. Parce qu'il faut mettre la lumière et il faut aussi avoir des avancées pérennes. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'un débat, d'une polémique, voilà, d'avoir des désaccords d'idées sur le fond. Mais au moins, ayons un débat sérieux, solide. Et ensuite, au moins, les décisions qui sont prises, elles sont pérennes. Voilà. Ouais. Et donc, je repense, par exemple, à une citation d'Harvey Milk, qui est un militant pour les droits homosexuels et qui a d'ailleurs été assassiné, et qui a dit « L'espoir ne sera jamais silencieux. » Voilà. Et donc, pour moi, on ne peut pas faire l'économie de faire du bruit. Voilà. Et donc, il faut affronter la polémique, la dispute, les débats, et voilà, et des fois, c'est tendu, etc. Mais on ne peut pas en faire l'économie pour ensuite avoir des véritables avancées qui sont pérennes et durables.
Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que même quand vous menez des campagnes extrêmement ciblées, précises, sur un sujet même parfois très technique, en fait, c'est toujours l'occasion d'utiliser, pour obtenir ces avancées-là, des arguments qui sont en fait contre le spécisme, en faisant passer des grandes idées forces que vous défendez à Paz. Les poissons souffrent, les animaux ne sont pas des jouets, la pêche c'est comme la chasse, il faut cohabiter pacifiquement avec les animaux liminaires et pas les tuer. En fait, tout ça, c'est des arguments que vous rabâchez pour obtenir des avancées sur des sujets très concrets. Donc en fait, ça fait avancer la bataille culturelle aussi, les idées.
Oui, complètement. En fait, ce que je pense, c'est qu'il faut partir d'une pratique précise, l'étudier. Et nous, on essaye vraiment d'avoir un travail d'expertise. Hein. On étudie les conventions, on auditionne des scientifiques quand on ne connaît pas les pratiques. Donc, par exemple, sur les balades à poney, on a essayé de comprendre ce que c'était une longe en colbert, enfin, etc. Et on a fait des rapports qu'on a envoyés à la mairie, etc. Pour illustrer les choses. Parce qu'en fait, si on dit seulement « les animaux ne sont pas des jouets », tout le monde est d'accord.
Oui.
Tout le monde est d'accord. Hier, par exemple, à la cérémonie du monument aux animaux de guerre, il y a un élu de droite du 7e arrondissement qui a dit « les animaux ne sont pas des objets ». Et on est d'accord. Mais ce même élu, par exemple, on a un désaccord sur le fait qu'il ne veut pas interdire la pêche à Paris. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on ne doit pas en rester au stade des grands discours. Et c'est pour ça que la bataille culturelle en disant juste « les animaux ne sont pas des jouets », ça ne suffit pas. Il faut qu'on aille précisément sur des pratiques, les mettre à la lumière et demander des comptes en fait, aux élus sur ces pratiques-là. Et voilà, et leur dire, voilà, bon, pas plus tard qu'hier, j'ai dit à l'adjoint à la condition animale, vous êtes adjoint à la condition animale, mais vous soutenez la pêche à Paris, et donc vous oubliez les poissons, et donc ce n'est pas acceptable. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que même si notre association n'utilise pas le terme spécisme, moi je pense qu'on est vraiment au cœur de la bataille contre le spécisme, en allant sur des pratiques précises, et en essayant de les déconstruire, et d'expliquer quel est le problème avec ces pratiques, et ensuite de les interdire, du moins au niveau local. Et bien sûr, notre ambition, c'est au niveau national avec des textes de loi.
Et est-ce que c'est pour ça que vous pensez que c'est important que les associations se spécialisent ? Parce qu'il y a une connaissance à développer, des compétences propres sur chaque sujet technique à bien connaître, à bien maîtriser pour pouvoir porter des avancées sur ces sujets-là, c'est ça ?
Oui, moi je pense, enfin alors ce que je pense c'est qu'il faut absolument développer une expertise, c'est-à-dire qu'il faut savoir de quoi on parle, faire des recherches, connaître le mieux le dossier hein, pour ensuite pouvoir en parler. Donc après se spécialiser, oui, après c'est des choses qui peuvent évoluer, c'est-à-dire que nous l'objectif évidemment c'est que les campagnes elles disparaissent parce qu'on les gagne et de changer de campagne, voilà. Mais en effet je pense que d'être trop généraliste, alors après ça dépend des moyens qu'on a hein, évidemment, hein, parce que si on avait plus de moyens, on ferait plus de campagnes, on aurait plus d'expertise. Mais je pense en effet qu'il faut vraiment étudier de très très près les dossiers pour pouvoir défendre les animaux.
Oui, puis j'ai l'impression que ça permet aussi une meilleure lisibilité peut-être des revendications. Que quand les gens entendent parler de Paz et de vos combats, il y a une cohérence d'ensemble qui fait qu'il y a un volet les animaux liminaires avec qui on doit cohabiter et un volet les animaux ne sont pas des jouets et donc et toute la question de la captivité aussi dans les cirques, les zoos. En fait, voilà, il y a une grosse cohérence d'ensemble du projet qui fait que peut-être c'est plus lisible auprès des médias et auprès des politiques.
Oui, ben on essaye parce que c'est vrai que des fois on peut se dire ouh là là, il y a plein de campagnes. Bon, alors en effet, nous on tient vraiment à être sur le maximum de fronts possible, mais en effet on a choisi de se borner donc autour de deux grands axes hein, qui ont été rappelés, donc les animaux liminaires et les animaux utilisés pour le loisir, pour leur divertissement, donc la captivité animale, la pêche notamment, mais aussi d'autres pratiques. Et donc en effet, on essaye de rester concentré sur ces sujets-là par rapport au fait que ensuite c'est trop complexe en termes d'expertise. Et puis qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire et beaucoup de sujets qui sont majoritairement pas du tout traités aujourd'hui en France.
Alors, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail sur comment vous réfléchissez d'un point de vue stratégique et notamment au moment de choisir vos campagnes. Comment est-ce que vous faites ce choix-là? Quand est-ce que vous décidez, on va se lancer dans cette campagne-là? Est-ce qu'il faut, par exemple, choisir des combats qui sont gagnables?
Alors, déjà, la première chose, c'est que les campagnes, les batailles qu'on choisit doivent être donc dans ces deux axes. Donc, soit la question des animaux liminaires, soit la question des animaux utilisés pour le loisir, pour le divertissement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on essaye d'un côté d'avoir des campagnes où on estime qu'on peut arriver à les gagner. Alors, je tiens à préciser que c'est toujours difficile de dire si on va les gagner ou pas, mais en tout cas, je peux vous dire que dès qu'on lance une campagne, nous, on y croit et on pense qu'on va y arriver. Mmh. Aussi, on essaye de traiter des sujets qui sont complètement oubliés, c'est-à-dire qui n'existent pas du tout dans le paysage de la protection animale. Donc, je pense à la pêche de loisirs, je pense évidemment aux animaux liminaires, au gazage des pigeons, ces animaux liminaires. La question des eaux, elle est un peu traitée, mais quand même, c'est très léger. Donc, on essaye aussi de rendre visibles ces sujets. Donc, on a à la fois des campagnes où on se dit qu'à court terme, on va y arriver. Et à la fois, on a des campagnes où on se dit que la bataille va être assez longue, mais on essaye d'avoir des objectifs assez à court terme.
Et c'est important d'avoir des petites victoires quand même ?
Ah ben nous, on estime que c'est fondamental d'arriver à arracher des avancées. Et je tiens à dire que nous, on ne fait pas de hiérarchie dans les avancées, c'est-à-dire que chaque victoire compte, que ce soit des victoires locales, des victoires nationales. Parce qu'en fait, moi, je crois vraiment à l'histoire de faire boule de neige, quoi. C'est-à-dire qu'une victoire entraîne une autre victoire, etc.
Lancer une dynamique, en fait.
Voilà, lancer
donner
une dynamique.
Donner de la force au mouvement.
Exactement.
Se prouver qu'on peut obtenir
tout à
des
fait.
Victoires.
Oui, oui, je pense que c'est aussi très important pour le mouvement de se dire qu'on peut arriver à faire des victoires. La question, c'est comment on pose les campagnes, dans quels termes on les pose, comment on définit les cibles. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit. Et donc, en effet, je pense qu'aussi une de nos forces, c'est d'arriver à bien poser la problématique d'une campagne. Voilà, par exemple, on aurait pu parler des pigeons comme ça. On a choisi de le cibler sur la question des mairies, sur la question de l'argent public, du gazage. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment très important, la façon dont on pose la question.
Mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'à la fois vous dites qu'il faut que ce soit des victoires qu'on pense, qu'on a de bonnes raisons de penser pouvoir obtenir. En même temps, vous partez dans des combats qui semblent tellement ambitieux au moment où on en est dans l'avancée du mouvement antispéciste. Se dire on va commencer à lutter pour les poissons et pour les rats, les animaux qui sont parmi les plus mal considérés, les plus déconsidérés, dénigrés, complètement ignorés, méprisés. Et en fait, vous reculez devant rien à vous emparer de ces sujets-là qu'on aurait pensé devoir attendre peut-être encore 20 ans pour commencer à traiter.
Oui, en fait, moi, je suis persuadée que plus tôt on va prendre un sujet, plus tôt on va le gagner, en fait. Je pense qu'il faut, vraiment, j'adresse un message à notre mouvement, il ne faut surtout pas avoir peur de s'emparer d'un sujet. Et dès qu'on l'étudie, quand on l'explique, je pense qu'il faut avoir des mots simples. Donc, je pense, par exemple, à un sujet qu'on a un peu travaillé, qui est la traction animale, qui est une pratique qui est un peu mise en avant par les écolos, etc. Il suffit de dire « les chevaux ne sont pas des machines ». Je pense qu'après, ça devient compliqué pour certains élus de le défendre. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de s'attaquer à des pratiques et y aller à fond. Et
édulcorer le discours aussi.
Oui, tout à fait, bien sûr. Ah oui, évidemment, et ne pas revoir à la baisse l'objectif. Nous, on essaye de vraiment pas du tout revoir à la baisse l'objectif et de bien arriver à formuler les choses. Donc, sur les rats, par exemple, quand on dit « cessons de faire mine d'ignorer qui souffrent », on ne peut pas faire comme si on ne le savait pas. Enfin, voilà, et ça devient, je trouve, très difficile pour la partie adverse de pouvoir défendre cela. Donc oui, c'est aussi, pour nous, c'est vraiment très important dans notre ADN de se dire que, quels que soient les obstacles, on ne doit pas avoir peur et on doit s'y attaquer.
Et puis aussi, des fois, on peut être surprise
bien sûr,
que ce
fait.
Soit plus facile qu'on l'aurait cru, qu'il n'y ait finalement pas tant d'opposition et que c'est juste que ça n'avait jamais été tenté.
Exactement. Alors ça, je suis complètement d'accord là-dessus. Et en fait, je le dis, c'est vraiment très difficile de savoir en combien de temps on va gagner quelque chose. Je prends l'exemple, par exemple, du marché aux oiseaux, qui est un marché qui existe depuis plusieurs siècles sur l'île de la Cité et qu'on a réussi à faire fermer en quelques mois, en fait. Donc je ne m'y attendais pas. Sur la question des rats, on a réussi à décrocher un groupe de travail pour penser à une cohabitation. Ça a été quand même dit au Conseil de Paris. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à tenter parce que c'est en se battant qu'on y arrive.
Et alors, dans vos campagnes, quand vous réfléchissez à quelles revendications concrètement vous allez défendre, comment vous faites la part des choses entre choisir une revendication plutôt abolitionniste sur une pratique et une revendication plutôt réformiste? Moi, je pense à la pêche de loisirs. Vous vous êtes dit, on va prendre la pêche de loisirs et vous vous êtes dit, on va revendiquer l'abolition d'une pratique la plus cruelle au sein de la pêche de loisirs, la pêche au vif.
Et pourtant, on va plutôt avoir des revendications réformistes pour le reste de la pêche de loisirs. Par exemple, lutter pour un permis de pêche sur le modèle du permis de chasse qui n'est qu'un encadrement finalement des pratiques.
Bah, je pense qu'en fait, c'est où on en est dans notre société aujourd'hui. C'est-à-dire que, je le redis sur la question de la pêche de loisirs, c'est le vide. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun discours construit qui a été posé avant, donc on part de rien, donc c'est quand même très difficile. Il y a en face un lobby qui est extrêmement organisé. Hein. Je rappelle que la Fédération de pêche en France est la deuxième fédération avec le foot. Donc voilà, et aussi, je pense que c'est important d'organiser le débat. Notre rôle, il est d'alimenter le débat. Et moi, je suis persuadée, en fait, que plus on va l'alimenter, plus on va se rapprocher de la victoire. C'est-à-dire que, pour moi, sur tous les sujets liés à la condition animale, les parties adverses, eux, leur objectif, c'est de rester dans l'ombre, qu'on n'en parle pas, de ne pas faire de vagues, de ne pas faire de bruit. Donc, nous, l'objectif, il est d'alimenter au maximum le débat public. Et c'est pour ça que la presse a un rôle fondamental, parce que l'idée, c'est d'alimenter. Et donc, pour ça, on le fait en expliquant que les poissons souffrent, en parlant de pratiques précises, etc. J'espère qu'un jour, il y aura un débat clair et politique à l'Assemblée sur est-ce qu'il est juste ou pas, qu'il y ait de la pêche juste pour le loisir en France. Mais en tous les cas, aujourd'hui, je pense que c'est important de se dire qu'il y a des pratiques qui sont extrêmement cruelles, qui sont complètement méconnues, voilà, sur l'empoisonnement, sur la pêche au vif. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres pratiques, il faut comprendre que sur la pêche de loisirs, quand on fait des études d'opinion, on a un pourcentage de personnes qui vont dire « je ne sais pas » qui est énorme. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas sur la corrida, sur la chasse à courre, etc., parce que les gens, ils savent ce que c'est. Mmh. Et donc, voilà, là, le gros challenge qu'on a, c'est d'expliquer ce que sont ces pratiques. Moi, je pense que si on l'explique, les gens seront d'accord. Mais ils ne savent pas ce que c'est. Voilà. Ouais. Et donc, c'est là tout le défi. Et donc, c'est pour ça que réformer la pêche de loisirs, je le dis quand même, hein, c'est un objectif qui... Alors oui, c'est une réforme, mais qui est quand même révolutionnaire, vu de là où on part aujourd'hui, en fait. Donc, comment on choisit notre revendication, c'est aussi l'état. On ne peut pas faire comme si... Voilà, l'état de la société aujourd'hui, évidemment.
Pour vous, c'était gagnable. Tellement c'est cruel, la pêche au vif. Vous vous êtes dit, là, on peut revendiquer l'abolition. Si on en parle bien, ça peut vraiment choquer tout le monde. Alors que la pêche de loisirs, plus généralement, on part plutôt sur de la réforme et ça permettra quand même de faire passer l'idée que les poissons souffrent, de faire passer plein d'arguments qui construisent une meilleure considération pour les poissons.
Oui, oui, parce qu'il y a aussi l'état du discours d'en face. Donc, si je prends deux exemples, donc la pêche de loisirs, les eaux, pour moi... Alors, bon, la pêche de loisirs, c'est un peu différent. Mais sur la question des eaux, pour moi, c'est aujourd'hui, le discours des eaux, il est dominant dans notre société. C'est-à-dire qu'eux, ils ont gagné la bataille culturelle. Parce qu'ils ont été là bien avant nous, parce que c'est un lobby qui est très organisé, qui a beaucoup d'argent. Et donc, il faut que nous, on organise un contre-discours. Et il doit être partout, ce contre-discours, dans la bouche des élus, dans les médias, etc. Et donc, sur la pêche de loisirs, on est en train un peu de renverser la vapeur. Les gens comprennent que les poissons souffrent, ils comprennent que c'est juste pour le loisir, que c'est tout ça pour ça, en fait. Et voilà, et ça, c'est notre but absolu, quoi. C'est-à-dire que la bataille culturelle, on doit la gagner pour avoir des avancées. Parce que malheureusement, aujourd'hui, très rares sont les élus qui vont prendre des mesures sans que la bataille culturelle soit déjà gagnée, en fait. Donc nous, on est sur les deux fronts.
Et comment on fait pour rester attentive, en fait, à ne pas basculer dans le manque d'ambition ou dans ce que vous disiez, de peut-être on a tendance à s'auto-censurer sans même s'en rendre compte dans le mouvement ou à ne pas s'emparer de certains sujets. Comment on fait la balance entre pragmatisme, il faut quand même prendre l'état actuel des rapports de force et donc pas partir à fond sur un combat qui ne peut pas être gagné là dans les 5 ans, mais quand même pas manquer d'ambition et pas manquer d'attaque et de vigueur dans le discours et dans le fond des idées et dans les combats qu'on endosse, en fait.
Bah c'est compliqué, c'est une analyse réfléchie, en fait, de la situation, hein, parce que d'abord et avant tout, il faut faire un diagnostic et essayer de comprendre, en effet, ce que tu as dit, l'état des rapports de force, essayer de comprendre, voilà, qui sont la partie d'en face, qu'est-ce qu'ils font, comprendre aussi, essayer de comprendre un peu ce que pense la société, mais c'est compliqué. Après, moi, j'estime qu'aujourd'hui, notre association, et d'ailleurs, on nous le dit souvent, est quand même très, très exigeante. Donc, je pense que, globalement, on pousse le curseur quand même très loin par rapport, je pense, à la moyenne du mouvement. Donc, voilà, je ne m'inquiète pas sur ça. Mais en effet, comme je le dis souvent... Moi, au quotidien, mon objectif, c'est de se dire qu'on ne perd pas l'objectif de vue, qu'on met tout en œuvre pour y arriver et on réinterroge notre stratégie tous les jours, quoi, en se disant comment on va faire pour arriver à cet objectif-là. Voilà. Et donc, voilà, il y a des campagnes qui sont plus difficiles que d'autres.
Est-ce qu'on peut prendre en exemple une de vos victoires pour analyser un peu en détail comment vous avez mené la campagne et quelles ont été les clés du succès? Et c'est important aussi de valoriser les succès, c'est peut-être quelque chose qu'on a tendance à pas suffisamment faire dans le mouvement. Le peu de succès qu'on a, on devrait les valoriser et en parler et aussi analyser pour savoir ce qu'on peut en tirer pour les prochains succès qu'on obtiendra. Peut-être qu'on peut revenir sur l'interdiction des animaux sauvages dans les circuits itinérants, qui était en fait la campagne historique de Paz, sur laquelle vous avez travaillé avec acharnement depuis 2015 pour finalement obtenir une victoire. Alors déjà, comment est-ce que vous aviez choisi cette campagne?
Alors, donc, historiquement, je rappelle qu'on est, on a créé un collectif, donc avant l'association PAS, qui s'appelait Paris sans captivité animale, en 2015. Et donc, l'objectif, c'est de se dire que on pensait que la question des cirques avec animaux était une question qu'on pourrait gagner au niveau national, et que ce qui serait décisif, c'était que Paris, en tant que capitale de la France, prenne position. Donc, à l'époque, la ville de Paris ne prenait pas position là-dessus. Et donc, on s'est dit que si Paris prenait position, ça pourrait faire boule de neige et ensuite avoir une loi. Voilà. Et donc, on s'est battu. La bataille à Paris a été très compliquée. Bon, alors, évidemment, on était inconnus. Hein, faut quand même le voir. C'était très compliqué, voire impossible d'avoir des rendez-vous avec des élus. On a mis 4 ans à ce que la ville de Paris prenne position. C'est très intéressant de voir le changement de discours qui s'est opéré, hein, puisqu'Anne Hidalgo, à une époque, disait « c'est pas possible qu'il y ait des cirques sans animaux ». Aujourd'hui, on voit que la mairie se vante d'avoir initié quasiment la loi, etc. Bon. Et puis, une fois qu'on a eu Paris, on a tenté évidemment de demander aux autres villes. Donc, on a fait ce qu'on appelait l'opération Grande Ville, où on a écrit, par exemple, à la mairie de Lille, qui a pris un vœu. La mairie de Toulouse, bon, s'est battue. La mairie de Toulouse n'a pas voulu, mais en même temps, on a quand même laissé des traces. Il y a eu des manifs, il y a des articles de presse, donc ça, je pense, c'est très, très important. Donc, on a essayé de convaincre d'autres villes. Alors, évidemment, je tiens à préciser que c'est un sujet sur lequel il y avait d'autres associations, on n'était pas la seule. Mais je pense que notre stratégie était quand même très forte parce qu'on a essayé d'être global. On faisait aussi des manifestations devant les cirques, ce qu'aucune association ne faisait aussi systématiquement que nous. Hein. Et c'est, je pense, la raison principale pour laquelle j'ai reçu des menaces de mort. C'est parce qu'on était, on essayait de faire le maximum de manifs devant... partout en France, en fait. Enfin, il y a eu des mois où on en faisait des dizaines, quoi. Donc, on faisait une pression très forte. Il y avait énormément d'articles de presse. Et puis, donc, il y a eu les travaux ministériels. Alors, ce que je tiens à préciser, c'est que pendant les travaux ministériels, donc le ministère de l'écologie, sur cette question-là...
Alors, parce qu'il y avait, du coup, une proposition de loi sur la question. En fait, vous êtes parti des villes...
Alors, c'était avant.
Ah, d'accord.
Ouais, alors on est parti des villes.
Vous êtes parti des villes, mais en fait, ça a mené finalement à une victoire au niveau national. C'est ça l'articulation entre
oui,
le
fait.
Local.
Ouais,
le fait, c'est
sûr.
Que quand les villes se prononcent contre la présence d'animaux dans les cirques, ça finit par avoir un impact, par mettre la pression sur le pouvoir politique à l'échelle nationale, c'est ça?
Tout à fait. Bon, en fait, il y a eu le poids des villes qui est très important, local. Il y a eu évidemment un nombre de manifestations très, très important qui commençaient vraiment à stresser, on va dire, les pouvoirs publics en termes de troubles à l'ordre public, etc. À chaque manifestation au cirque, il y avait des renseignements territoriaux qui nous appelaient, voilà, qui étaient beaucoup stressés, alors que globalement, ça s'est bien passé. Hein. Enfin, il y a une manif où il y a des circassiens qui ont frappé des militants, et d'ailleurs, il y a une audience qui aura lieu. Mais en tous les cas, globalement, ça se passait bien, même s'il y avait des tensions. Ensuite, il y a eu quand même, d'un point de vue scientifique, un consensus, hein, avec la position de la Fédération des vétérinaires européens. Une opinion publique qui était majoritairement favorable. Donc, en fait, tous les indicateurs étaient au vert. Et donc, on a eu une série de rendez-vous avec le ministère de l'écologie où on leur disait vraiment que là, sur la condition animale, il n'y avait aucune avancée et que ça pouvait être une avancée accessible. Donc, il y a des travaux ministériels qui ont été ouverts suite au fait qu'il y a eu également la proposition de loi de Cédric Villani qui a repris le texte du référendum pour les animaux, qui a vraiment mis une pression sur l'exécutif.
Qui était incroyablement ambitieux.
Voilà, très ambitieuse, évidemment, notamment l'abolition de l'élevage intensif et une série de mesures, en effet, qui est vraiment le référendum pour les animaux. Et puis, donc, durant ces travaux ministériels, donc 12 associations de protection animale face à 12 circassiens, et puis des représentants de divers ministères, il a fallu donc batailler pour avoir cette loi. Et je tiens donc à souligner que notre association a été quand même la seule à dire qu'il fallait absolument une date butoir. Et ça me paraît être essentiel. C'est-à-dire que je ne vois pas l'intérêt qu'il y ait une interdiction si on ne met pas une date butoir, une échéance, pour rentrer dans le réel, en fait, l'interdiction.
Sinon, ça veut dire que ça risque de jamais s'appliquer.
Voilà, exactement, bien sûr. Ou ça pourrait être suspendu à des arrêtés. À des... Donc, bon, après, ça dépend des gouvernements, etc. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, nous, on a fait une contribution écrite avec un calendrier vraiment très précis. On a proposé 5 ans. Bon, au final, la loi, ça a été 7 ans. Et puis, il y a eu également cette histoire que le ministère voulait une liste partielle. C'est-à-dire, voulait interdire certaines espèces qui auraient été soumis à un arrêté ministériel. Donc, peut-être que les éléphants, alors qu'il y en avait deux ou trois, bon, donc ça n'aurait pas eu de sens.
Ça, c'est une bonne leçon à en tirer. Il faut toujours essayer qu'il y ait un maximum dans la loi contenu déjà clarifié, parce que sinon, ça laisse beaucoup trop de marge de manœuvre à l'exécutif, à l'application par décret et par arrêté.
Exactement. Et donc, le ministère voulait vraiment cette liste partielle. Et donc, on a vraiment poussé, on a dit que c'était fondamental qu'il y ait tous les animaux sauvages. Déjà qu'on n'a pas les animaux domestiques. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on mène la bataille sur la question des rapaces qui étaient complètement oubliés et ils sont des animaux sauvages. Donc là, c'est inclus dans la loi.
Et alors, c'est quoi votre rapport aux élus? Comment vous faites le premier contact avec des élus que vous pensez pouvoir être de votre côté, avec qui vous pouvez collaborer ou sur qui vous voulez commencer à mettre pression? À quel moment vous basculez dans le rapport de force en faisant des manifs ou en appelant, je sais pas. En fait, comment est-ce que vous utilisez plutôt la carotte, plutôt le bâton? Comment ça marche en fait votre rapport aux élus?
Alors, quand on choisit de mener une bataille, quand on a un objectif précis, la première chose qu'on fait tout le temps, en fait, c'est qu'on écrit aux élus concernés qui ont le pouvoir de prendre la décision. Donc, ça peut être un ministre, ça peut être une maire, ça peut être... en général, c'est d'ailleurs ces personnes-là. Donc, on leur écrit, on leur expose notre demande, hein, qui est assez courte, hein, et on est assez direct. Évidemment, on demande un entretien pour pouvoir en discuter. Donc là, bon, il y a deux solutions. Hein, donc, soit on n'a pas d'entretien, soit ils acceptent de nous recevoir, d'échanger. Donc là, on argumente au maximum, on essaye de convaincre. Et puis donc, on attend en fait une réponse. Alors évidemment, il y en a qui peuvent être amenés à nous balader. Donc bon, en général, on attend peut-être
un mois.
C'est-à-dire
qu'ils vous disent oui, puis en fait, ils ne le font jamais.
Ou alors, ils disent on va réfléchir.
Oui.
Voilà. Donc, on va réfléchir. Et alors là, évidemment, nous, on se pose la question en interne, combien de temps on leur laisse?
Oui.
Voilà, parce que évidemment, comme je le dis à chaque fois aux élus, hein, nous, si on peut se passer d'une campagne, ça nous arrange, hein, et aussi pour les animaux, évidemment. Donc voilà, donc en général, on leur laisse peut-être un mois, et ensuite, évidemment, nous, on passe à la vitesse supérieure. Hein, donc, comme on le dit d'ailleurs lors des entretiens, on leur dit, nous, c'est notre objectif, donc voilà, on utilisera tous les outils que nous propose une démocratie pour y arriver. Donc voilà, et donc après, évidemment. Quand on passe à la vitesse supérieure, donc ça peut être des manifestations, ça peut être des pétitions, ça peut être voilà, des communiqués de presse, etc. Il y a des élus qui le prennent mal et donc à ce moment-là, qui ne veulent plus échanger avec nous, qui ne nous répondent plus. Mais ça, c'est un risque que nous prenons en fait et on a l'habitude. Et il y en a qui vont continuer quand même à échanger un minimum, même s'il y a un désaccord. Voilà. Mais en tous les cas, les rapports avec les élus, c'est compliqué. Voilà, c'est pas simple. Mais en tous les cas, je pense qu'on est l'association qui essayons le plus d'écrire aux élus, de les solliciter, de leur faire des propositions, de aussi leur partager notre expertise, hein, parce qu'il y a plein d'élus qui ne savent pas forcément. Des fois, on leur apprend des choses. Hein, on a appris à des élus que leur ville gazait des pigeons, par exemple. Et donc, voilà. Donc, en tout cas, nous, notre objectif, c'est d'être exigeante, de faire des demandes claires. Et puis, si on n'y arrive pas, de faire pression autrement. Voilà, et de bousculer. En fait, on bouscule. Et donc, il y a des élus qui le prennent très, très, très mal, qui se vexent. Et il y en a qui comprennent que c'est le jeu et que c'est notre rôle en tant que militante. Enfin, voilà. Donc, voilà. Donc, les rapports avec les élus sont... Il y en a qui se passent très bien, il y en a qui se passent moins bien.
Et vous avez aussi des alliés de la cause
avec qui,
j'imagine, vous collaborez régulièrement pour leur proposer des questions au gouvernement, des propositions de loi pour travailler avec elles, justement, sur des projets quand ils sont volontaires, en fait.
Tout à fait. Et nous, évidemment, on est indépendante de tout parti politique. Il y a des élus de droite, de gauche. Et donc, on essaye aussi de ne pas avoir de préjugés sur les réponses ou quand on va cibler une ville. Enfin, peu importe, en fait, le parti, on va voir tout le monde, on leur fait les mêmes demandes et on essaye, c'est notre règle, d'être juste. Voilà, d'être juste. Et donc, on peut en effet être amené à dénoncer telle ou telle réponse sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est... Enfin, en tout cas, nous, on ne veut pas être dans un huis clos avec les élus. C'est-à-dire que quand on a des réponses qui sont inacceptables, on les rend publiques, en fait, parce que c'est normal. C'est normal que les gens soient au courant.
la panoplie là dont vous avez parlé d'actions que vous pouvez mener, c'est-à-dire les manifs, les tribunes, les articles dans les médias, les colloques, etc. Tout ça, ça, c'est toujours articulé en fait à la stratégie de campagne que vous avez ciblée et dans des moments clés pour faire avancer finalement les sujets politiquement, c'est ça ? C'est pour faire monter la pression.
Exactement, exactement. Bah, c'est vraiment la théorie du tube de dentifrice. En fait, en respirant, en fait, on essaye d'aller vraiment crescendo. Et en fait, l'enjeu, c'est de dire que il faut tenir jusqu'à la victoire et il faut faire vivre le sujet. Donc, en fait, si le premier jour, on fait une pétition, une manif, une tribune, enfin, si on fait tout, voilà, après, on ne peut plus rien faire. Donc, c'est vrai que l'important, c'est vraiment de tenir dans la durée, de faire vivre le sujet, de maintenir la pression, de montrer qu'on ne va pas lâcher. Et voilà, et pour moi, c'est vraiment
notre ADN. Et du coup, d'avoir cette réputation aussi, qu'une fois que vous vous êtes lancé dans une campagne, vous ne lâchez rien.
Bah, ça, c'est,
du coup, les gens savent que quand Paz commence une campagne et commence à faire monter la pression, ça ne va pas s'arrêter. Vous n'allez pas changer d'avis en cours de route, a priori.
Oui, non, a priori non. Non. Et en effet, c'est pas facile tous les jours, mais en effet, enfin pour nous, la ténacité, c'est vraiment la base, quoi. Et d'ailleurs, moi, je suis persuadée que c'est parce que c'est pas qu'on est plus intelligente, plus fort que les autres, c'est juste qu'on ne lâche pas, en fait. Moi, je pense que n'importe qui ne lâche pas un sujet y arrive.
Faut être têtu, en fait, pour être une bonne militante.
Bien sûr. Ça. Ah ben ça, c'est la base.
Et alors, à quel moment, à quoi ça sert concrètement les manifs ? Quand est-ce que vous vous dites, là, il faut organiser une manif ? Est-ce que ça marche tout le temps ? Est-ce que des fois, il y a des manifs qui serviraient à rien ? À quel moment, en fait, c'est pertinent de se dire, on va réunir plein de bénévoles là, sur tel lieu, devant telle mairie, devant le Parlement ?
Alors déjà, nous, on n'utilise pas forcément le terme de manifestation, mais plutôt de happening, parce que c'est vraiment quelque chose que je veux expliquer, c'est que moi, je pense que ce n'est pas le nombre de personnes qu'il y a à un rassemblement qui fait la victoire, en fait. Et ça fait longtemps que je sortais cette idée de se dire qu'il faudrait qu'on soit 5000 pour y arriver. Non, des fois, on est 10 et on y arrive. Donc, l'idée, évidemment, c'est quand on fait une manifestation, un happening, c'est pour moi de mettre la lumière sur un sujet, de faire couler de l'encre, de faire du bruit, d'attirer l'attention des médias et d'aller demander des comptes en fait à la partie d'en face qui refuse. Voilà. Alors, ce qui est important aussi, c'est de se dire que les manifestations, l'idée, ce n'est pas non plus d'épuiser les militantes et militants. Donc, on essaye de les faire à des moments stratégiques. Donc, en général, c'est que quand on n'arrive pas à une revendication, qu'on a essayé quand même d'échanger, de discuter, de donner des arguments. Ensuite, on va à des manifestations. Voilà. Après, évidemment, il y a la question de la quantité. Donc, par exemple, sur le Moulin Rouge, on en a fait plusieurs avant de gagner.
Donc, pour le Moulin Rouge, pour préciser ?
Alors, le Moulin Rouge, qui est donc un cabaret à Paris, qui utilisait donc des serpents qui immergeaient dans l'eau pour un spectacle, en fait. On a appris que c'était contraire à la loi et que pourtant tout le monde laissait faire. Et donc, nous, on a manifesté, on a fait des pétitions, on a mobilisé les élus et donc ils ont arrêté en quelques mois.
Ok. Et est-ce que ça dépend plus que du nombre de personnes dans les manifs ou du nombre de manifs, peut-être aussi justement du nombre de retombées médiatiques. Est-ce que, par exemple,
bien
pour
sûr.
Chaque happening que vous prévoyez, vous envoyez systématiquement un communiqué de presse ?
Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui. Ah
bah ça,
oui.
C'est un truc peut-être auquel tout le monde ne pense pas, alors que finalement, ça fait partie de la stratégie de mobiliser des bénévoles. Il faut juste en fait aussi en faire un événement dont la presse peut parler,
c'est
dont
ça.
Les journalistes peuvent s'emparer pour faire exister le sujet.
Oui, exactement. Ben, les communiqués de presse, c'est fondamental parce qu'en fait, la presse, c'est l'opinion publique, c'est les élus, c'est la société. Et donc, pour moi, évidemment, l'idée, c'est d'informer le plus largement possible quand on mène une bataille avec évidemment nos arguments, notre discours, évidemment. Donc, ce qui fait qu'une manif marche, c'est bon évidemment où c'est qu'elle est située. Quand il y a une sorte de confrontation, donc devant par exemple un cirque, devant le Moulin Rouge, devant tel ou tel endroit, évidemment que c'est très fort pour les journalistes, hein, parce que déjà ils peuvent aller interroger la partie adverse et que c'est très important évidemment pour la pluralité des opinions. Mais également à quel moment, donc ça c'est très important, c'est vrai que par exemple on va essayer de coupler, donc ça c'est quelque chose auquel on réfléchit beaucoup, mais de coupler des choses, donc ça peut être on lance une pétition le jour où on va organiser une manifestation, on essaye si on le peut de faire venir des élus, des députés, donc on essaye ce que j'appellerais de créer un momentum. Ça veut dire qu'à un instant T, donc bon, un instant T, c'est pas un jour même, mais ça peut être sur un mois, il y ait le maximum d'actions, de petites actions en fait, sur un même sujet. Donc ça peut être des députés qui écrivent à un établissement de captivité animale, ça peut être des questions écrites, ça peut être... Je vais donner l'exemple du Moulin Rouge. Donc l'objectif était qu'il n'y ait plus d'animaux qui soient utilisés en spectacle. Donc je vais expliquer les actions qu'il y a eu. Donc il y a eu une pétition, il y a eu des manifestations, il y a eu des députés de la circonscription qui ont écrit à l'établissement Le Moulin Rouge, qui a répondu, et donc du coup on avait les arguments d'en face. Il y a eu un débat au Conseil de Paris, alors qu'on n'était pas du tout sur la compétence de la mairie de Paris, hein. C'était vraiment une compétence de la loi, et pourtant la mairie de Paris s'est dit, c'est un établissement au cœur de Paris, qui d'ailleurs est un peu emblématique des soirées parisiennes, il faut qu'on en parle, et donc ça c'est extrêmement fort. Il y a eu une question écrite, enfin voilà, donc il y a eu une série d'actions qui a fait que c'était incontournable. Et d'ailleurs, ce sujet qui pourrait être apparenté, voilà, un tout petit sujet en fait, a fait le tour du monde, parce que le Moulin Rouge, voilà, ça représente Paris, soirée festive, tous les touristes connaissent, et donc voilà, je trouve que c'est très fort, parce qu'en fait, encore une fois, on part d'un sujet précis, et ça permet une bataille culturelle très forte, au-delà des frontières en plus, hein, toute la presse en a parlé, jusqu'en Amérique du Sud, au Royaume-Uni, etc. Et donc ça, c'est très important.
Et donc c'est ça, c'est cette stratégie-là médiatique qui est la clé d'obtenir autant de retombées presse.
En fait, la stratégie médiatique nourrit le fait qu'on a des avancées. Comment on fait pour avoir des retombées presse? Ben, c'est à la fois un travail d'expertise, à la fois qu'on essaye d'alimenter, hein, c'est-à-dire que c'est pas juste nous demandons ça. C'est par exemple, nous avons écrit à tel élu, nous allons lancer une pétition, il y a un élu de l'opposition qui nous a répondu que, et on le soutient. Enfin, et donc, en fait, il faut évidemment alimenter le débat avec toutes les actions qu'on fait. Et là, ce qui est très important, c'est qu'on réussit de plus en plus à avoir des réponses. Alors, pas forcément sur lesquelles on est d'accord, hein, mais le fait d'avoir des réponses d'élus ou même, par exemple, d'entreprises comme Decathlon, ça permet aux médias, en fait, d'écrire, en fait.
En fait, vous pensez toujours la chose pour donner le maximum d'éléments qui peuvent, en fait, déclencher un article dans la rédaction, c'est ça?
Oui, et qui va permettre, après, évidemment, de convaincre les élus.
Oui, en retour, dès qu'il y a la multiplication des articles fait que ça alimente ce momentum et donc ça fait augmenter la pression. Oui, c'est vraiment des choses qui s'enchaînent comme ça.
Exactement.
Et vous vous appuyez beaucoup pour ce faire sur la presse locale. Il y a vraiment un rôle incroyable et le nombre de retombées presse est gigantesque, notamment dans la presse locale.
Oui, alors, bon, la presse locale, ce qu'on appelle la presse quotidienne régionale, c'est, il faut le dire, beaucoup plus facile que la presse nationale. Donc, évidemment, quand on va s'intéresser à une question, on essaye de l'ancrer localement. Et donc, il y a des campagnes qui sont pour ça très, très faciles. Hein. Donc, par exemple, sur les pigeons, on va ancrer la question du gazage des pigeons sur telle ou telle ville. Et donc là, évidemment, ça va beaucoup intéresser la presse locale parce que c'est un sujet local. Sur la question de l'empoisonnement, pareil, on va dire c'est dans telle rivière qu'il y a des truites qui sont balancées à l'eau pour être pêchées, etc., etc. Et donc ça, en effet, c'est très important. La presse locale, elle est très, très lue, y compris par les élus locaux, mais aussi par ce qu'on pourrait appeler les leaders d'opinion, enfin les influenceurs, etc. Après, ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive à un seuil sur la presse locale, on bascule en national. Voilà. Et donc là, c'est ce qui s'est passé, par exemple, au mois de décembre sur la campagne contre la pêche au vif visant Decathlon, donc pour que Decathlon cesse de vendre des poissons vivants. En fait, on a eu beaucoup, beaucoup d'articles localement, donc en Bretagne, mais aussi ailleurs. Et ça a fait que, sans qu'on fasse rien, il y a eu un article dans Le Figaro, sur BFM, etc. Donc ça, c'est très intéressant de voir qu'il y a une imbrication.
Ça sert de trépied pour aller vers le national, en fait.
Exactement, c'est ça. Mais en fait, on essaye constamment d'alimenter les deux. Parce que, par exemple, quand il y a une pétition qui est lancée sur un Décathlon, par exemple, à La Rochelle, on encourage les personnes qui sont localement à écrire à leurs députés. Donc, l'imbrication entre le local et le national, elle est fondamentale, puisque, je le rappelle, notre objectif ultime, c'est d'avoir des textes de loi qui protègent sérieusement les animaux.
Oui, puis cette imbrication, elle est à la fois du côté médiatique, mais aussi du côté politique.
Exactement.
C'est-à-dire, plus vous multipliez les élus locaux qui sont engagés sur la question, qui font des vœux, c'est-à-dire des déclarations un peu des villes... Des prises de position des villes pour un sujet. C'est aussi comme ça que vous avez obtenu une avancée vers la loi maltraitance animale pour intégrer cette question-là. C'est qu'il y a eu 400 villes qui ont pris position contre la présence d'animaux dans les cirques.
Oui, exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye aussi de reproduire sur la question de la pêche au vif, où on a des villes qui ont pris position de tous les partis politiques. Et en effet, l'idée, c'est de se dire comment on va créer en fait un mouvement, en fait comment on va amorcer. Et donc, il faut qu'il y ait des actions qui se passent. Et donc, évidemment, quand c'est un conseil municipal qui débat de la pêche au vif, je repense par exemple à Saint-Étienne qui a pris position, c'était en une du journal, en fait, parce que tellement que ça paraissait être inédit. Voilà.
Ouais.
Et donc, ça, c'est vraiment très important d'avoir une stratégie qui est globale, médiatique, locale, politique et aussi nationale.
Oui, et puis une fois que quelques grandes villes ont commencé à se situer. Vous pouvez l'utiliser comme exactement. Argument pour les prochaines. Ça peut, le but, c'est toujours d'engranger voilà. un mouvement exactement. Qui va vers toujours plus.
C'est ça, exactement. Et par exemple aussi, quand on a eu donc, ces vœux sur la pêche au vif, ça a permis aussi, mais aussi sur les CIR, d'ailleurs, ça a permis aussi, par exemple, qu'il y ait des partis politiques comme Europe Écologie Les Verts qui adoptent des motions de parti. Donc là, c'est le parti qui prend position. Donc après, on va voir les élus de ce parti. On leur dit, mais votre parti a pris position, donc vous le faites ou pas ? Enfin voilà. Donc oui. tout ça, en fait, ça, c'est, on essaye vraiment d'imbriquer les choses pour arriver à l'objectif.
Oui, donc on le voit, vous ne resteriez pas du tout à Paris.
Non,
fait.
Pas du tout.
Vous êtes une association nationale,
ah,
en
oui,
fait.
Ah oui, oui, non, mais clairement, une association nationale, clairement. Après, il y a le fait qu'on utilise Paris dans le sens où on est dans un pays qui est très centralisé. Donc je pense que stratégiquement, ça peut aider.
Oui, c'est pareil, c'était l'idée initiale en
exactement.
Fait de se dire bon bah dans le contexte français actuel, tout se passe à Paris,
exactement.
Toutes les institutions de la République sont à Paris, on va commencer à Paris
c'est
en
ça.
Se disant c'est du local, mais en fait c'est du local qui a un impact systématique sur le national.
Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2023, on a clairement eu plus d'articles de presse en dehors de l'Île-de-France qu'en Île-de-France.
Ouais. Mmh. Et on disait, une fois lancé, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut rien lâcher, il faut avoir la niaque. Il faut aussi reconnaître que en fait, ça prend beaucoup de temps et c'est normal dans le processus, c'est ça. Vous parliez notamment du fait de la proposition de loi de Cédric Villani. En fait, ça a été un échec, mais c'était presque une étape obligatoire d'avoir plusieurs propositions de loi avant d'arriver à la victoire finale de la proposition de loi qui a donné la loi maltraitance animale.
Tout à fait. Et moi, je considère que ce n'est pas un échec, hein, la proposition de loi de Cédric Villani. Alors évidemment, elle n'a pas été adoptée.
C'est une petite victoire qui est un trépied.
C'est révolutionnaire. Il y a eu des débats en commission des affaires économiques, je m'en souviens, qui étaient vraiment inédits quoi, sur l'élevage intensif, sur la chasse. Et donc, ça, c'est très important. Et en fait, il ne faut pas, c'est ça que je voudrais vraiment dire, il ne faut pas avoir peur de perdre. C'est-à-dire que nous, des fois, on va voir, quand la majorité ne veut pas faire quelque chose dans une mairie, on va voir les élus de l'opposition pour leur dire, demandez l'interdiction de la pêche au vif, demandez la fin du gazage des pigeons dans votre ville. Et on se dit, c'est l'opposition, ils sont minoritaires, bon, il n'y a pas beaucoup de chances qu'on gagne. Mais peu importe, en fait, on crée le débat, déjà. Ensuite, on somme, finalement, l'exécutif à publiquement, parce que les conseils municipaux sont filmés, à s'expliquer. Donc, nous, c'est intéressant quand même de voir quels mots ils vont utiliser pour défendre quand même des pratiques abominable. Voilà, donc pour moi, en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler des échecs, hein, quand on n'arrive pas à faire passer quelque chose, quand il y a des débats, etc. C'est des moments qui sont indispensables sur l'étape sur le chemin en fait, d'une campagne qui a mené à la victoire. Donc la proposition de loi de Cédric Villani, elle a été pour moi très, très, très important. C'est ce qui a provoqué, je m'en souviens, ce discours historique de Barbara Pompili, à l'époque la ministre de l'écologie, et qui a provoqué, en fait, ces annonces hein, sur les cirques. Et en effet,
Elle avait dit quoi dans son discours ?
Donc, dans son discours, elle avait dit qu'il fallait qu'on sorte notre rapport actuel avec les animaux sauvages en parlant de la captivité animale, en fait. Et d'ailleurs, quand on entend ça, on ne peut que se dire, mais pourquoi elle a oublié les zoos ? Mais donc, c'est pour ça que c'est très fort. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que sur les propositions de loi, il y a eu trois propositions de loi sur l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques avant d'avoir l'adoption. Et pour moi, c'est pas des choses anecdotiques. C'est-à-dire que là, notre association s'est battue pour qu'il y ait une proposition de loi qui soit déposée à l'Assemblée sur la pêche au vif, qui a été déposée par des élus de la NUPES et portée par Gabriel Amar de la France Insoumise. Alors, on ne sait pas si ce sera à l'ordre du jour, mais j'ai envie de dire...
Ça place des jalons.
Oui, parce qu'en fait, il y a une rédaction, et on le sait, moi je l'ai vu sur la
proposition. Oui, il y a ça aussi, en fait, ça permet de reprendre les éléments qui ont déjà été rédigés
exactement.
Avant. Ça accélère le processus pour les prochaines tentatives, finalement,
tout
de proposition
fait.
De loi.
Et ça, c'est très important, parce que, bon, mine de rien, sur ce texte législatif, ça a été très compliqué juridiquement. Il y a des bénévoles juristes qui nous ont aidés, mais la formulation est complexe, etc. Et donc, je repense à une proposition de loi qu'on a beaucoup travaillé avec un député qui était à droite, Robin Reda, qui est maintenant d'ailleurs chez En Marche, qui avait fait une proposition de loi donc, sur les cirques, sur les montreurs d'ours, à notre demande, avec des dates butoirs qu'on avait souhaitées. Voilà, elle n'a jamais été mise à l'ordre du jour. Moi, j'estime qu'elle a contribué à connaître cette loi aujourd'hui. Voilà. Donc, y a toute une série d'actes qui peuvent paraître anecdotiques ou ne servir à rien, qui, je pense, sont décisifs. Et il ne faut pas les négliger.
Une autre chose, j'ai l'impression, à comprendre dans le processus législatif, c'est que de toute façon, ça va être dilué. Et du coup, vous dites souvent, il faut proposer l'idéal au début,
bien sûr,
sait que de toute façon, à la fin du processus, quand la loi sera adoptée, elle aura été vidée d'une partie de sa substance. Et de fait, c'est ce qui s'est passé sur cette proposition de loi qui a mené à la loi maltraitance animale, où finalement les animaux domestiques ont été enlevés.
Alors ils n'ont jamais été inclus, malheureusement, puisque les travaux ministériels étaient que sur les animaux sauvages. Mais c'est vrai que 7 ans sur la date butoir, c'est loin. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être très décevantes. Mais en tous les cas, comme je le dis souvent, moi je suis une militante, donc je ne suis pas une politique, donc je ne suis pas là pour faire des compromis. Voilà. Et ça, c'est ce que je dis.
Si vous les faites à l'avance pour eux, ça va juste diluer beaucoup plus.
Évidemment. Ouais. Et donc, moi, c'est vrai que je ne comprends pas quand certaines associations peuvent faire des compromis à la base. Enfin, ce n'est pas notre rôle.
Faut fixer la barre haut au début, côté associatif, c'est ça.
Enfin, moi, je propose toujours ce qui me semble être l'idéal. Voilà. Ouais. Et je leur dis, voilà. Et moi, je ne suis pas élue, donc ce n'est pas à moi de faire des compromis, etc. Donc, en effet, quand nous, on réfléchit à des textes de loi qu'on propose à des députés, à des sénateurs, sénatrices, nous, on propose l'idéal.
Il faut voir aussi qu'une fois les lois votées, le combat n'est jamais terminé. Même quand les lois sont adoptées, il faut encore se battre pour vérifier qu'elles sont bien appliquées, que les décrets, en fait, que le gouvernement fait son boulot de décret d'application. Et aussi, même quand les décrets d'application sont votés, que la loi est respectée. Et parfois, l'État se désinvestit. Il y a un super exemple avec la question des poissons rouges dans les fêtes foraines. C'est une loi qui date de 2000. C'est bien ça. Corrigez-moi si je dis n'importe quoi. Et en fait, elle est très souvent pas appliquée. Enfin, personne ne va vérifier dans les fêtes foraines s'il n'y a pas des poissons rouges qui sont vendus.
Oui.
Paz.
Oui, sur les poissons rouges, il y a une infraction qui est massive et généralisée. Donc, je rappelle qu'il est illégal soit d'offrir en guise de l'eau, soit de vendre des poissons rouges sur des fêtes foraines ou sur toute autre fête qui n'est pas spécifiquement en fait dédiée aux animaux de compagnie. Et donc, en effet, on a repéré qu'il y a des infractions massives. On a écrit à tous les services vétérinaires de tous les départements en France pour exiger qu'ils aillent faire des contrôles, qu'ils aillent verbaliser. Suite à nos alertes, puisqu'on a essayé vraiment de contrôler quasiment l'ensemble des fêtes foraines, on a fait le maximum en tous les cas, il y a eu quand même un grand changement. C'est-à-dire qu'on a appris la loi aux maires qui ne la connaissaient pas. Les services vétérinaires, suite à notre demande, certains se déplacer, mais en demandant juste un rappel à la loi. Donc, il n'y a pas de verbalisation. Mais en tous les cas, on a vu qu'il y avait un point de bascule. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on suit de très près. Mais notre campagne a clairement joué un rôle très important. On a été aussi reçu au ministère de l'Agriculture pour parler de cette question-là. On a exigé qu'il y ait une circulaire, c'est-à-dire juste informer les maires de la loi, ce qui est quand même le rôle du gouvernement. Bon, on nous a dit que
vous substituez à l'État, en fait, dans ce travail-là. Ça finit par faire partie de votre activité alors que ça ne devrait pas faire partie.
Clairement. C'est-à-dire que là, on a juste une loi. Et ce qui était très intéressant, c'est que ça nous a permis aussi de mener la bataille culturelle sur les poissons. Ça a été très, très important. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on dit c'est une loi, généralement, les maires ne contestent pas. Et puis, on a vu 2-3 maires par-ci, par-là qui disaient « mais ce ne sont que des poissons, on ne va pas priver les enfants de cette joie, etc. » Et donc là, on a pu vraiment mener une bataille au sens propre en rappelant « mais ce ne sont pas des jouets, enfin ces propos sont inacceptables, etc. » Donc, ce que je veux dire, c'est que cette campagne-là, c'est aussi un outil pour parler des poissons, en fait, et pour mener la bataille culturelle. Donc, c'est une campagne qui est importante et je pense que dans les mois qui arrivent, elle sera clairement appliquée.
Ouais, c'est super révélateur d'à quel point le travail associatif doit faire pression à toutes les étapes du processus politique jusqu'à la toute fin. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui fait qu'on a peut-être du mal à célébrer les victoires? Parce qu'en fait, on ne sait jamais quand on peut déclarer que c'est des victoires, parce qu'il y a encore la mise en application qui tarde, après l'application effective de la loi. Est-ce que c'est ça qui fait qu'on a du mal à célébrer, de se dire « ok, là, c'est bon, on a décroché une avancée ».
Alors, il y a ça, mais pour moi, c'est d'abord et avant tout que, en tant que militante pour la cause animale, on est face à un océan de souffrance, à des multiples pratiques, innombrables pratiques de cruauté animale. Et donc, en fait, quand on arrive à gagner une bataille, on se dit « il reste tout ça ».
Ouais. Voilà. Mais là, c'est quelques centaines d'animaux qui sont concernés en fait par cette loi.
Plusieurs centaines. En effet, plusieurs centaines sur les cirques. Hein. Sur les cirques, plusieurs centaines.
On se dit, quand on est antispéciste, on se dit, par rapport aux 3 millions par jour morts dans les abattoirs, on
et
a du mal à se.
Les millions de poissons.
Et oui,
de la pêche.
J'ai fait cette erreur alors que comme un poisson dans l'eau, quelle honte.
Non.
On a du mal à se satisfaire de entre guillemets si peu quand on replace ça dans le paysage général.
Oui, mais je pense que c'est une erreur. Pense que c'est une erreur parce qu'en fait...
Il faut qu'on sache le faire.
Oui, il faut qu'on sache le faire, mais c'est surtout qu'il faut se dire, et moi j'en suis convaincue, que gagner la bataille des cirques, c'est pas que gagner la bataille pour ces animaux-là, en fait. C'est à chaque avancée, on est sur une bataille culturelle qui nous rapproche d'une autre société, en fait. Donc, moi je pense profondément que tout est lié et que l'idée, c'est d'ouvrir les yeux sur ce qu'on fait subir aux animaux. et que chaque pratique qui recule, ça a un impact sur le reste, en fait.
Ouais.
Voilà, je sais qu'il y en a qui ont pu penser que cette loi, finalement, ne concernait que certaines pratiques qui, en termes de nombre, sont anecdotiques, etc. Moi, je pense que c'est une erreur, quand même, de penser comme ça. Alors, évidemment, on est très loin du nombre de la pêche, des abattoirs, etc. Mais ça nous rapproche, parce que je pense que c'est des étapes, en fait, hein, qui nous rapprochent.
Comment est-ce que vous évaluez vos choix stratégiques ? Vous avez dit que vous changez très souvent d'avis de stratégie, vous réévaluez en permanence si les moyens sont bien ajustés par rapport au but que vous vous êtes fixé. Et est-ce que votre stratégie d'ailleurs, ou vos choix un peu stratégiques précis, ont évolué au fil des années ?
Alors, en fait, donc, quand on a défini un objectif, donc par exemple l'interdiction d'une pratique, on essaye en effet de tout mettre en œuvre pour y arriver. Et donc, c'est vrai qu'il y a des thématiques où on se dit, bon, ben là, ça a du mal à avancer. Comment on fait ? Comment on re-questionne ? Voilà. Donc ça, par exemple, très concrètement, c'est l'exemple de la pêche au vif, puisque c'est quand même une campagne qu'on a débarrée en 2019. Hein, donc, ça fait quand même quelques années. Et donc, il y a eu cette idée, évidemment, dès le début de se dire, on veut l'interdiction. Mais après, la question, c'est comment ? On arrive à l'interdiction. C'est, enfin, je pense que pour moi, la vraie question, c'est toujours le comment, parce que bon, on est tous d'accord pour arriver à telle ou telle interdiction, mais c'est comment on fait. Et donc, au début, donc, on était vraiment sur aller voir le gouvernement, sur demander une loi, etc. Et puis après, on s'est dit qu'il fallait vraiment viser une entreprise précise, Decathlon, que ça serait quand même plus concret. Donc, on a eu une réunion avec Decathlon, on a lancé une pétition. Bon, on a vu que c'était quand même compliqué à ce que le sujet prenne. Et puis, on a eu cette idée, finalement, de mobiliser aussi toutes les personnes qui nous soutiennent, qui sont des militants pour la cause animale, et donc de faire des pétitions par magasin Decathlon. Et donc, du coup, là, on est sur de l'extrêmement local qui va, du coup, intéresser la presse locale.
Une fois de plus, la même stratégie. On parle du local pour généraliser.
Voilà, c'est ça, exactement. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on part d'un sujet directement national, ça reste quand même... on est face à un mur, quoi. Ça reste quand même très, très compliqué. Hein. Donc, et là, c'est vrai que depuis qu'on on arrive à cette stratégie, donc avec des pétitions, une par magasin, très localement, où finalement, le sujet, il se diffuse, où ça multiplie, en fait. Les prises de position, ça multiplie le nombre de journalistes qui frappent à la porte de Decathlon et en leur disant « qu'est-ce que vous répondez ?» Voilà. Et donc, du coup, il y a eu un changement de discours de Decathlon. Voilà. Donc, moi, je pense que là, on est à un tournant de cette campagne-là. Il y a eu plusieurs magasins qui ont arrêté juste après les pétitions. Aujourd'hui, Decathlon le dit que... ils ne le disent pas comme ça, mais ils disent qu'en gros, il faudra qu'il n'y ait plus de pêche au vif, mais que ça prendra du temps. Bon. Mais en tout cas, ils actent le fait qu'on est dans le juste, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc là, il faut vraiment qu'on arrive à persévérer. Mais des fois, finalement, la stratégie, quand on a essayé tout ce qu'on a pu faire, c'est de répéter, en fait. Des fois, c'est juste de répéter, de continuer. Donc, c'est, voilà, et c'est là où on est sur un travail de fond, où c'est là où il faut être persévérant, parce que ça peut être des manifestations, ça peut être lancer des pétitions. Voilà, et c'est vrai que des fois, c'est compliqué qu'on se dit, mais comment on fait pour y arriver ? Et c'est vrai qu'il y a des thématiques qui peuvent être plus faciles que d'autres. Mais pour moi, le sujet, c'est de se dire comment faire pour que notre campagne soit vivante. Donc, qu'elle soit nourrie, qu'elle soit alimentée, qu'on la mette à l'ordre du jour des médias, dans le conseil municipal, etc., pour la faire vivre, en fait. Et pour moi, plus une campagne vit, plus on se rapproche de la victoire, forcément. Le problème pour nous, c'est que la campagne soit qu'on n'en parle pas, qu'elle soit dans l'ombre, qu'elle soit enterrée, en fait. Mais il faut faire du bruit.
C'est jamais une option de se dire, bon, bah, cette campagne, ça n'a vraiment pas l'air de marcher, on a essayé plein de choses, on perd trop d'énergie là-dedans, on va arrêter, on va se concentrer sur d'autres campagnes ?
Si, ça peut être une option. Moi, je pense que c'est que des fois, il faut se poser cette question-là. Et je pense que, pour moi, le problème, ça serait de rien faire.
Oui.
Donc, se dire, cette campagne-là, on n'y arrive pas, peut-être qu'on ne sait pas comment la prendre, parce que c'est trop tôt, peut-être que voilà, et on fait autre chose, bon, pourquoi pas ? Ça, c'est pourquoi pas.
Le seul enjeu, c'est qu'il faut maintenir cette réputation de, une fois qu'on a commencé, on ne s'arrête plus.
Alors, ça, on ne le prend pas trop comme un enjeu. Pour moi, c'est dans mon caractère.
C'est là.
Quoi. Donc, c'est déjà là.
C'est pris pour acquis.
Voilà, c'est ça. Donc, encore une fois, je pense que ça serait intelligent de se dire qu'il y a des campagnes que peut-être, des fois, on n'y arrive pas et qu'on passe à autre chose, et que provisoirement, ou je ne sais pas. Après, nous, dans notre cas, c'est pas vraiment une campagne, mais ça va être à l'intérieur de la campagne. Donc, ouais. Par exemple, il y a des villes qu'on a confrontées sur les cirques ou sur les pigeons où c'est extrêmement difficile. On se rend compte qu'on est vraiment face à un mur où, en fait, ils ont honte de rien, qu'on peut dire sur tous les plateaux de télé, dans la rue, qu'ils gazent les pigeons, ça ne leur fait rien. Donc là, voilà. Donc là, on se dit, bon, ben, on va plus prioriser sur une ville où on voit qu'elle peut basculer, en fait. Voilà. Donc, ça peut être des choses comme ça, des ajustements au sein de la campagne. Mais si je prends l'exemple des pigeons où notre objectif est l'interdiction dans les textes de loi du gazage, de toutes les méthodes cruelles visant les pigeons, là encore une fois, les villes, c'est des étapes. Donc nous, on essaye d'avoir le maximum de vie, si je puis dire, de faire plier le maximum de villes sur la fin du gazage des pigeons. Il y en a où on n'y arrive pas. Mais on passe à une autre, en fait. Et l'idée, c'est d'en avoir le maximum. Donc là, on a eu quand même Marseille, qui est la deuxième plus grande ville de France, qui a arrêté le gazage, la stérilisation chirurgicale, qui sont des pratiques cruelles. Il y a eu Rennes, qui coupait la tête des pigeons avec des pinces coupantes. Donc il y a eu comme ça une dizaine de villes qu'on a réussi à avoir, qui a mis le sujet à l'ordre du jour. Là, on a des députés qui sont plutôt favorables à déposer une proposition de loi. Donc voilà, donc là, le sujet commence vraiment à monter, alors que c'est un sujet sur lequel on partait de rien, en fait. Et alors, c'est très dur à donner. C'est ça aussi un peu notre faiblesse, comme je le dis souvent, c'est que nous, on est sur des sujets où c'est très dur de compter le nombre d'animaux. Donc, la pêche, les rats, les animaux liminaires, les pigeons, c'est très, très dur. Donc, ça, c'est un peu notre faiblesse.
Il n'y a pas d'études, en fait.
Voilà, il n'y a pas d'études. Et puis, c'est très complexe. Ouais. Voilà, mais en tout cas, ça concerne quand même beaucoup, beaucoup d'animaux, hein, si on pense à tous les pigeons qui sont gazés. Donc, nous, c'est plutôt au sein des campagnes qu'on peut être amené à faire des choix en se disant, on va prioriser sur telle ville parce que sans doute qu'elle peut basculer, parce qu'elle est grande, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, etc.
D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il manque quelque chose et qu'il pourrait y avoir, s'il y avait les forces militantes d'une autre association qui pourrait peut-être reprendre les mêmes méthodes ou des méthodes aussi efficaces que PAS, mais dans quelque chose, dans une niche qui n'a pas été prise, dans quelque chose qui n'est pas encore fait, est-ce que vous avez des idées de choses qui ne sont pas encore faites dans le paysage animaliste actuel ?
Alors, donc pour moi, il y a deux choses. Il y a déjà, sur la question des thématiques choisies, donc je pense qu'il manque énormément de batailles sur la question, évidemment, de la pêche professionnelle, la pisciculture. Donc ça, pour moi, c'est vraiment... Et puis aussi, quand on pense en termes de nombre d'individus et de souffrances, c'est une grande carence. Hein. J'espère vraiment qu'il y aura des associations qui vont travailler sur la question. Je pense également sur la question des animaux de compagnie. Alors ça, c'est très paradoxal, parce qu'on pourrait se dire il y a des associations qui travaillent
dessus. Oui, on a l'impression que c'est quand même très bien traité, déjà, comme question.
On a l'impression, puisqu'il y a des associations voilà, qui ont beaucoup de moyens, je pense à la SPA, en Islande, etc. Et pourtant, moi, je pense qu'il faudrait vraiment des campagnes qui soient très construites en demandant la fin de la marchandisation, de cibler, pourquoi pas, les animaleries, de cibler les politiques aussi. Alors que, j'estime que, aujourd'hui, le discours, il est très, il se résume à ne pas abandonner, stériliser. Et en fait, le message, il est envoyé à l'opinion publique, alors que pour moi, il faut d'abord viser les décisionnaires politiques, en fait. Donc ça, pour moi, ça serait important. Je pense aussi, évidemment, à l'aquariophilie, donc aussi les animaux de compagnie, mais donc tous les poissons, où là, on n'en parle pas du tout, c'est quand même, en termes de nombre, les premiers animaux de compagnie. Hein, et très peu de gens savent comment s'en occuper correctement, à tel point que c'est technique.
À peine considérés comme des animaux,
voilà,
c'est presque comme des plantes.
Voilà,
et
je pense qu'il faut vraiment faire passer le message que les aquariums, c'est des cages et que c'est inacceptable. Donc ça, c'est important. Et après, pour moi, je voudrais quand même dire avec gentillesse qu'il y a des sujets où je pense qu'il faudrait retravailler la stratégie. Donc, je pense par exemple à la chasse à courre, la corrida et le foie gras. Je pense que c'est des sujets... Alors, il y a des associations qui travaillent là-dessus et qui mènent, pour moi, la même stratégie depuis longtemps. Et je pense que ce serait vraiment important de repenser complètement la stratégie. Donc, je donnais des exemples. Bon, je prétends pas avoir toutes les solutions et autrement, ça serait interdit. Mais voilà. Mais je veux pas du tout donner de leçons. Mais par exemple, la corrida, moi, je pense qu'il y a un gros blocage qui se situe à Paris, en fait. Députés, Assemblée nationale, Sénat, gouvernement. Donc, je pense que ce serait important aussi de sortir ce sujet des villes taurines et qu'il faut vraiment mener un travail auprès des élus qui soit massif. Parce qu'en face, c'est un lobby qui est très organisé. Pareil sur la chasse à courre. Aujourd'hui, c'est essentiellement, le mouvement contre la chasse à courre, il se situe dans les forêts. là où les animaux souffrent. Et je pense que c'est intéressant, hein. Mais je pense qu'il faut sortir de ce huis clos entre, d'un côté, les militants, de l'autre côté, les veneurs qui est dans les forêts où il n'y a personne, en fait. Et pourquoi pas faire des happenings sur des places publiques, sortir ce sujet et le mettre, en fait, ailleurs.
Sinon, il n'est pas assez visible, en fait, c'est ça ?
Oui, oui, exactement. Et à un moment donné, nous, on s'est posé la question, quand on faisait des manifs devant les cirques, on s'est dit, est-ce qu'il faut qu'on aille toujours sur leur terrain ? Alors, je pense qu'il faut y aller, hein, mais pas seulement. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, on va faire des cirques sur une place publique qui n'a rien à voir. On va en parler parce qu'on va expliquer aux gens dans la rue qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, je pense que ce serait intéressant aussi de sortir ces sujets-là. Voilà. Et ces trois sujets sont des sujets où il y a un lobby, la partie d'en face, les lobbies sont très, très puissants. Et je pense que le terrain politique n'est pas du tout assez investi. Voilà, ce sont la chasse à courre, il y a des lobbies qui rédigent des dépliants de très très bonne qualité, envoyés tout le temps avec des argumentaires tout prêts aux élus, etc. Et en face, voilà, qu'est-ce que... Donc je pense que... Et pourtant, ces trois sujets-là sont des sujets, enfin, alors surtout corrida, chasse à courre, où l'opinion publique est acquise. Donc c'est ça, en fait. Donc il faut se poser la question qu'on a l'opinion publique qui est acquise et pourtant on n'y arrive pas.
Ouais.
Donc, je pense que c'est intéressant aussi. Alors, c'est très dur quand on est dedans, hein, mais c'est intéressant de se dire, à un moment donné, quand il y a une stratégie qui ne marche pas, il faut essayer de rabattre toutes les cartes et de tout repenser. Voilà. Alors, c'est pas facile, hein, mais voilà.
OK, bah merci beaucoup pour ce conseil. Amandine Saint-Vicens, pour finir, j'aimerais vous demander si vous avez une campagne d'une autre association que PAS qui vous semble particulièrement inspirante, bien construite ou efficace.
Alors, je pense à la campagne donc, de L214 sur la question donc, des œufs en batterie, donc des poules pondeuses en cage. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y avait un blocage très fort sur la question de la loi. Où le gouvernement, je m'en souviens par exemple des débats de la loi Egalim, refusait en fait de mettre dans la loi qu'il fallait interdire les poules pondeuses en cage, etc. Et en fait, L214 a finalement contourné cet obstacle en s'attaquant plutôt aux entreprises, au secteur économique. Et ça, je trouve que c'est extrêmement malin, extrêmement intelligent. Et finalement, je pense que la très grande leçon à tirer de cette campagne, c'est que des fois, ça peut être plus facile de convaincre des entreprises et des multinationales, enfin, je veux dire, ou des entreprises des grandes surfaces, des hypermarchés, etc., que de convaincre des élus. Voilà. Et donc ça, je trouve que c'est très intéressant en termes de stratégie d'adaptation, de se dire que voilà, on n'arrive pas à rentrer par la porte, on rentre par la fenêtre, enfin, et il faut toujours réinterroger en fait nos techniques pour arriver à un objectif. Voilà. Et donc en fait, on va arriver à un stade où finalement, en termes de nombre, de pourcentage de parts d'élevage de poules en cage, on va arriver à que ce soit extrêmement minoritaire, alors
sans
qu'avant
que
c'était majoritaire.
Passé par la loi.
Voilà, exactement. Mmh. Et ça, je trouve que c'est très intéressant.
Ok, multiplier les points d'entrée en fait.
C'est ça, ouais, tout à fait.
Super, bah merci beaucoup et merci d'avoir encore accepté mon invitation, Amandine Saint-Vicens,
dans
Comme un poisson dans l'eau.
Merci beaucoup.
Bon, je sais pas vous, mais moi, Amandine Saint-Vicens, je la trouve assez incroyable. Et la stratégie de PAS vraiment bien ficelée et inspirante. Hâte de savoir ce que vous en pensez, si ça vous a apporté des choses utiles, si c'est un sujet qui vous intéresse, et donc si vous voulez que je fasse plus d'épisodes axés stratégie, dites-le moi, sur les réseaux, sur le mail du podcast, ou là où vous pouvez me trouver. Si vous pensez que je fais du bon travail, si le podcast vous plaît, soutenez-le et partagez-le, ça le fera grandir. À très vite pour un prochain épisode. Bisous.